Merci de rester fidèle au programme du studio Kalangou. Il est 17h, l'heure de votre journal en français. Monsieur, dame, bonsoir. Rouquet Abdraman pour vous tenir compagnie. À la une du journal, le Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité des CAF organise à Niamey pour 3 jours un renforcement de capacité des parlementaires sur le contrôle de l'exécution des programmes de défense et de sécurité. À suivre les détails dans ce journal. La journée mondiale sans tabac est célébrée ce 31 mai avec pour thème « S'engager à arrêter » le pneumologue Dr Souman Alfazazi sur les dangers de la consommation du tabac. Dans la partie magazine de ce journal, le magistrat Nani Boubacar Sidikou parle de la loi numéro 112 du 20 novembre 2014 qui crée les juridictions pour mineurs. Renforcer les capacités des parlementaires sur le contrôle de l'exécution des programmes de défense et de sécurité est l'objectif de la rencontre qu'organise à Niamey le DECAF, Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité, sur 3 jours.
Souvent dans les institutions, que ce soit les techniques ou les institutions de contrôle, on a souvent ce défaut ou la lacune. Vous avez dans la vie ordinaire, quelqu'un a été en directeur et puis il rentre sans donner les informations sur les défis, ce qui a été bien, ce qui n'a pas été bien. C'est une première ici au Niger que les membres de la commission les sont apprises à ceux qui vont les suppléer. Les principaux résultats, c'est qu'on puisse avoir une commission défense et sécurité qui puisse cette fois-ci mieux représenter le peuple en sachant d'abord quels sont les besoins sécuritaires pour le peuple nigérien et qu'est-ce qu'ils doivent demander à l'exécutif pour que ces besoins soient accomplis.
C'était là les propos de Luis Pasteur Moussongera, le représentant pays de DECAF. Les chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, se sont réunis en sommet extraordinaire dimanche à Accra, au Ghana, pour examiner la situation sociopolitique du Mali. À la suite des échanges, les participants ont décidé de suspendre le Mali des institutions de la CEDEAO, conformément au texte de l'organisation, rapporte le site de l'organisation. Les chefs d'État appellent à la nomination immédiate d'un nouveau premier ministre civil et demandent la formation d'un nouveau gouvernement inclusif. Par ailleurs, le sommet précise que le vice-président et le premier ministre de transition ne devront en aucun cas se porter candidats à la prochaine élection présidentielle prévue se tenir en février 2022 selon le site de la CEDEAO. S'engager à arrêter, c'est le thème retenu pour la célébration aujourd'hui de la Journée mondiale sans tabac. Depuis 34 ans, sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé, cette journée a pour but d'inciter à une prise de conscience globale sur les dangers du tabac. Le pneumologue Dr Soumana Alfazazi explique les conséquences sanitaires de la consommation des produits dérivés du tabac au micro de Michel Deji.
Il y a plusieurs formes de tabagisme. Il y a le tabac à chiquer, le tabac à fumer, le tabac à briser. Et il y a le fameux chicha que les jeunes utilisent ces derniers temps. L'un dans l'autre, quelles que soient les formes de tabagisme, il est nuisible pour son consommateur et des fois même pour l'entourage. Donc le tabac est responsable chaque année d'environ 8 millions de décès par an, à peu près 7 millions chez les fumeurs et à peu près 1 million chez les non-fumeurs. Le tabac est responsable de 23 maladies chroniques et de 16 cancers. Si toutefois le fumeur a déjà une maladie, le tabac va contribuer à l'aggraver. Des fois, je vous assure, le tabac peut amener les gens à une situation de maladie chronique dont on ne peut pas les ressortir dedans. Par conséquent, il faut vraiment arrêter le plus tôt possible, c'est mieux.
Des journalistes des régions de Zender, Maradi, Difa et Agadez, correspondants du studio Kalangou, sont à Zender pour un renforcement de capacité sur l'éthique et la déontologie de la profession du journalisme. Alassane Abdou, le formateur et rédacteur en chef du studio Kalangou, explique au micro de Mama Ada.
La formation même en tant que telle est basée sur l'éthique et la déontologie. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, si on a formé les gens sur beaucoup de thèmes, notamment le béaba du journalisme, comprendre ce qu'est le rôle des médias de la société, le travail, la recherche de l'information, l'approche, mais tout ça là tu comprends ça. Qu'est-ce que tu fais de l'éthique et de la déontologie? C'est des comportements que les gens ignorent. C'est des mots qui créent la confusion des fois. Et les gens ne savent même pas. Quand est-ce qu'on doit respecter ceci et cela? Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas dire? Voilà pourquoi aujourd'hui, nous aimerions amener ces journalistes à comprendre et de savoir qu'il est vraiment important de respecter l'éthique et la déontologie dans l'intérêt de leur travail et dans l'intérêt de l'évolution de ce travail d'équipe avec Kalangou.
Fin hier à Niamey de la formation d'une vingtaine de journalistes venus de toutes les régions du Niger sur les questions des droits humains après 4 jours d'échange. C'est pour promouvoir une information de qualité sur les droits de l'homme au Niger que le réseau des journalistes pour les droits humains, RJDH, a organisé cette activité. Seyni Aye, un des participants venus de Dosso, s'exprime au micro de Salamat Kadri.
Pour un journaliste, apprendre sur le droit, ce n'est jamais assez. C'est que ça peut nous éviter à l'avenir certaines dérives que nous faisons, surtout dans nos expressions et surtout aussi souvent dans nos interventions même. Donc c'est ça donc l'objet de ma satisfaction en général. Puisque c'est un cadre spécifiquement sur le droit, c'est un cadre qui, si ça ne s'est pas, il fallait le créer. Ça nous permet d'apprendre les béabas du droit pour ceux qui ne sont pas du domaine, pour nous autres, vraiment.
Le président de la République, Mohamed Bazoum, a rencontré jeudi le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens USN et le comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens de l'Université de Niamey, Iyonun. Plusieurs sujets relatifs à leurs conditions de vie et d'études ont été évoqués, souligne le porte-parole de l'USN, Alassane Efred Mouloul. Il est joint au téléphone par Tanane Foudé Ahmed.
Nous avons longuement échangé pendant plus d'une heure par rapport à beaucoup de questions actuelles et futures relativement au système éducatif nigérien. Nous avons à cet effet brandi un certain nombre d'obstacles qui empêchent aux scolaires nigériens d'étudier dans les conditions optimales. Nous avons discuté des revendications générales de l'ISN et l'inscription d'un contrat de performance pour les enseignants, l'adoption d'une loi de programmation ainsi que bien d'autres questions relatives au respect du calendrier académique et la redynamisation des grandes écoles, l'abandon des classes en période. Le président de la République a pris des engagements et des instructions fermes ont été données à l'endroit des ministres concernés pour que dans les prochains jours, des solutions immédiates soient trouvées.
L'avenir de l'élevage du pastoralisme au centre d'échange du 27 au 29 mai 2021 à Niamey entre éleveurs des pays du Sahel et de l'Afrique centrale sur invitation du réseau Bitilal Marobé. L'un des objectifs de la rencontre est de faire le plaidoyer auprès des chefs d'État africains pour trouver une issue à toutes les crises qui secouent le secteur, explique Slimane Al-Mahmoud du réseau. On l'écoute au micro de Tanane Foudé Ahmed.
Les éleveurs traversent des crises qui sont certaines de catastrophes naturelles. La crise est la plus grave pour les éleveurs, c'est que depuis 2012 à nos jours, les éleveurs n'ont même pas la liberté même de faire la transhumance de l'élevage. Et ils ont été trop secoués par rapport à cette crise qui jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça n'est que prendre vraiment de l'ampleur. Voilà pourquoi il y a eu cette réunion des éleveurs de toute la sous-région, Mali, Burkina, Bénin, Niger, Togo et Mauritanie. Tchad même, pour vraiment voir les voies et moyens, au moins comment répondre ou bien trouver ou faire un plaidoyer au niveau de nos États, au moins pour s'en sortir.
Plusieurs monuments historiques de la région de Zender seront réhabilités par l'Association de sauvegarde du patrimoine historique de Damagaram avec le concours de la coopération allemande GIZ. Le lancement des travaux s'est déroulé samedi au palais du sultan de Damagaram. Pour cette première phase, le coût est estimé à environ 40 millions de francs CFA. Plus de détails avec Mama Lamine Bra, président de l'association, interrogé par Ali Kaita.
Brunei était clôturé par un gigantesque mur. Il s'agit principalement de l'une des 7 portes qui a été financée, celle de l'Allah du Nord et de l'Est. Il y a la résidence où résidait Barthes qui sera reconstruite. Il y a les travaux du monument de l'esclavage qui sera réhabilité. Et il y aura la construction du puits de Tchma. Et ici au palais du sultan, il y a les cellules des prisonniers. Il y a 5 cellules plus celles de leurs gardiens. Vous avez les images qui sont là, qui sont en train d'être reprises. Et il y a les chambres des femmes du sultan qui vont être reprises. Et il y a le musée, n'est-ce pas, qui va être réhabilité. Le musée sera réhabilité. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est notre histoire, c'est ça notre cité. Nous avons une histoire, donc il faut la restaurer.
Bonsoir grande sœur. Enfin, aujourd'hui je me suis décidée à venir te rendre visite au bureau.
Ah, Nafisa, Tu sais, tu es toujours la bienvenue dans mon bureau.
Je sais, de toute façon, je suis ta petite sœur préférée, ou bien...
Toi-même, tu sais, non? Est-ce que j'ai besoin de le dire?
Mais, attends, grande sœur. Apparemment, vous ne blaguez pas ici avec les mesures de prévention contre la COVID-19.
Ah, mais oui, avec cette deuxième vague, nous devons donner le bel exemple au peuple.
Je comprends alors. Tout à l'heure, le vigile à la porte ne voulait pas nous laisser entrer dans le bâtiment sans bavette et sans avoir lavé nos mains. Heureusement qu'on avait nos bavettes dans nos sacs. On les a enfilées et on a lavé nos mains. Et me voilà dans ton bureau.
Tu vois, cette deuxième vague qui a encore repris, c'est à cause des comportements de négligence comme les tiens. Tu dois être responsable, je te le répète toujours. À chaque fois que tu dois te retrouver dans un endroit avec le monde, porte toujours ton masque. Il ne faudra pas laisser la négligence prendre le dessus. Soyons responsables, protégeons-nous et protégeons les autres.
Tu as tout à fait raison, grande sœur. Merci beaucoup pour ces conseils.
Ceci est un message du studio Kalangou en collaboration avec le ministère de la Santé publique du Niger.
Au Niger, c'est la loi numéro 112 du 20 novembre 2014 qui crée les juridictions pour mineurs. Celles-ci sont compétentes en matière pénale et de protection des mineurs. D'une part, les juridictions pour mineurs peuvent instruire les dossiers impliquant des mineurs ayant commis des infractions et d'autre part, protéger les mineurs vulnérables, souligne le magistrat Nani Aboubakar Siddiq, juge des mineurs au tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Il est interrogé par Balkis Hamid.
Depuis 1999, le Niger dispose des juridictions pour mineurs. Qu'est-ce qu'on entend concrètement par juridiction pour mineurs?
Les juridictions pour mineurs ont été créées au Niger le 14 mai 1999 à travers l'ordonnance numéro 99-11, donc de la même date portant création et composition, organisation, attribution des juridictions pour mineurs. Donc après un certain nombre d'années d'application, des difficultés ont été relevées dans sa mise en œuvre, des insuffisances, ce qui avait conduit à la de cette ordonnance qui a été remplacée par la loi numéro 2014-112 du 20 novembre 2014 déterminant les compétences, les attributions et les juridictions pour mineurs. Actuellement, les juridictions pour mineurs sont régies par la loi 2014-112 du 20 novembre 2014. Les juridictions pour mineurs, ce sont des juridictions qui existent au niveau de chaque tribunal de grande instance qui est compétent pour connaître les infractions qui sont commises par les mineurs.
Quelles sont les compétences ou les rôles que peuvent jouer ces juridictions pour mineurs?
Donc, les juridictions pour mineurs, au regard de la loi de 2014 qui détermine leurs compétences, le juge de mineurs a une double casquette. Il a des compétences en matière pénale et des compétences en matière de protection. S'agissant des compétences en matière pénale, le juge de mineurs, il est compétent pour instruire les dossiers impliquant des mineurs qui ont commis des infractions à la loi pénale. Les tribunaux pour mineurs sont également compétents pour éventuellement juger ces infractions-là lorsque le juge d'instruction estime que les faits qui sont reprochés aux enfants à la suite de son investigation sont établis. Maintenant, au-delà de la compétence traditionnelle, la compétence classique en matière pénale, les juridictions pour mineurs sont aussi compétents en matière de protection, en ce sens que le juge des mineurs, au regard de l'article 5 et 37 de la loi numéro 2014-112, il est compétent pour prendre des mesures de protection en faveur des mineurs en danger.
Qu'est-ce qu'on entend par mineurs en danger?
Au terme de l'article 1er de la loi 2014-112 du 20 novembre 2014, par mineurs en danger, il faut entendre tout enfant dont la santé, la sécurité, la moralité ou les conditions de son éducation sont gravement compromises. Maintenant, les mineurs dont il est question, c'est tout enfant de l'un ou de l'autre sexe qui n'a pas 18 ans révolu. Ce sont des enfants-là qui sont justiciables, donc des juridictions pour mineurs.
C'est ici que s'achève le journal de ce lundi 31 mai 2021 à 18h15. Suivez le forum sur la lutte anti-tabac au Niger, avancées et défis, c'est avec Michel Digi.